Hi, this is Maceo. Maceo Parker, the funkiest saxophone player around. Yes, I'm still here. And you're listening to Radio Compass 88.3. Stay tuned.
Mais oui, mon Dieu, mais oui, c'est lui. C'est bien lui.
Radio Campus 88.3.
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenche la tuerie au palais de la Syrie.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Bonsoir à vous, on va couper ce générique qui est pourtant très très bon, très bien. Oh là, pourquoi c'est fort dans votre studio, monsieur dame? Il faut absolument baisser tout le son. Alors je vais couper pour l'instant, baisser le son dans le studio parce que le retour c'est dans ce... Ah, c'est ici également, c'est le mien. Bonsoir à vous, je disais, bienvenue sur Radio Campus Orléans, merci Erwan. Bienvenue sur Radio Campus Orléans, Radio Campus Tours pour un bâton rompu, magazine d'infos tous les mardis de 19 à 20h. Au sommaire ce soir, alors oui, il y en a un qui a son micro trop fort, je pense. Au sommaire ce soir, je disais, bien entendu, les élections législatives en France. Dans quelques minutes, Mourad Guichard, journaliste indépendant, nous livrera son analyse sur le premier tour. Et Thomas, qui sera studio avec nous ensuite, nous parlera d'une agora organisée par le monde de la culture à Orléans hier. La deuxième partie de l'émission sera consacrée à un événement autour de la mémoire dans le quartier de la Source, ce beau quartier d'Orléans qui accueille l'université et donc les studios de Radio Campus Orléans. Le photographe Malik Nejmi a lancé un projet, vous savez, artistique autour notamment de la destruction de la T-17. On en a beaucoup parlé, la T-17 emblématique. Samedi dernier, la journée de la Source était organisée. Nous y étions avec ces messieurs qui sont avec moi en studio. Bonsoir, monsieur Daniel Begdad.
Salut Hassan.
Le retour de Daniel Begdad.
Oui.
Daniel Begdad qui a tenu longtemps la rédac pop. D'ailleurs, l'émission qui a été faite samedi est déjà sur la page de la rédac pop. En tout cas, dans cette émission, on reparlera de cet événement, de cet après-midi, et puis de tout ce qui était autour de son que j'ai pu prendre. On était également avec Steven. Bonsoir Steven.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Et toi, ton papier également porte sur cet événement de samedi dernier.
C'est ça, ouais.
Voilà, sur...
un point précis.
Précisément.
Précis.
Précisément. À bâton rompu jusqu'à 20h, vous avez le sommaire. Bienvenue, restez avec nous.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir Mourad.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à toi Hassan.
Bienvenue à toi, nous parlons ce mardi des résultats du premier tour des législatives dimanche dernier qui ont vu l'extrême droite arriver en tête avec 31,15% des voix devant le nouveau Front Populaire, l'alliance des partis de gauche à 27,99. La majorité présidentielle sous la bannière Ensemble pour les valeurs de la République termine en troisième position avec 21,27% des voix. Quelle est ton analyse de ces chiffres ?
Alors, d'abord, ils sont plus faibles que prévu, notamment pour le Rassemblement national. Et surtout, j'étais vraiment très agacé la semaine dernière par les analystes et les experts en expertise des plateaux télé qui ont avancé, alors je pense notamment à Nathalie Saint-Cric, qui avait avancé des projections avec entre 260 et 305 députés RN élus. Voilà, alors qu'on n'est même pas avant le premier tour, et qu'en fait, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à essayer d'expliquer, alors d'écrire, de dire, et puis d'expliquer notamment sur les spaces, c'est-à-dire ces espaces de discussion qu'il y a sur Twitter, pour lesquels j'avais été très aimablement sollicité pour essayer de décrypter un peu tout ça, que on est face à une c'est en train de se dessiner, c'est en train de se confirmer, on est face à un scrutin particulier, c'est-à-dire qu'on peut absolument pas, à moins d'être un charlatan ou Madame Soleil, on ne peut absolument pas, à partir de prévisions d'avant premier tour, on ne peut pas deviner ce qui va se passer au second tour pour une raison très simple. Enfin, au soir du second tour, pour une raison très simple. C'est qu'en fait, tout se décide dans cette élection-là, circonscription par circonscription. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a le premier facteur qui est évidemment le résultat. Mmh. Ensuite, y a-t-il ou non triangulaire ? Ensuite, c'est-à-dire que trois candidats peuvent, grâce à leur voix, à leur nombre de voix, mais surtout grâce au fait qu'ils aient atteint, je crois que c'était 12,5 ou je sais plus, qu'ils aient atteint un certain pourcentage du nombre d'inscrits, qui puissent se maintenir. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les désistements. Désistements, alors soit simples, soit désistements en appelant à voter pour le candidat le mieux placé. C'est-à-dire qu'on est troisième, on sait qu'on va pas gagner, mais même si le deuxième face au RN est pas de notre bord, de notre camp, on va quand même se désister de manière républicaine, de manière raisonnable aussi. On va se désister en disant je préfère laisser ma place plutôt que de voir arriver au pouvoir de voir arriver in fine au pouvoir le Rassemblement national, mais enfin au moins voir la circonscription tomber dans l'escarcelle du Rassemblement national. Et quand on prend tous ces facteurs en compte, on ne peut absolument pas a priori deviner ce qui va se passer et donc se projeter et projeter un nombre de sièges pour tel ou tel autre parti. Ça relève de l'escroquerie totale, de l'escroquerie d'analyse à la petite semaine, et surtout ça vient fausser les résultats puisque ça vient conforter une partie de l'électorat en disant oui, le RN demain peut être à Matignon. Bardella, qui du coup on a strictement rien à foutre des électeurs aux européennes, puisqu'il a été élu comme tête de liste aux européennes, et donc il serait prêt à quitter Bruxelles pour venir, et à quitter Strasbourg pour venir à Matignon. Donc c'est complètement fou comme emballement. On se croirait vraiment au Grand Prix de l'Arc de Triomphe, quoi. Ça n'a plus aucun sens. Et là, effectivement, il se confirme que les désistements aidant, l'appel à voter pour un candidat de second tour alors qu'on a en deuxième place alors qu'on est troisième et qu'on a été même si on peut se maintenir, on va décider de partir. Tout ça fait que, et ça avance d'heure en heure, hein, c'est ce soir que se plie ce dossier-là, puisque c'est là que les candidatures de second tour vont être déposées. Ce sera la fin, hein. Après il n'y a plus de renoncement possible, et donc ça, c'est très agaçant parce que une fois de plus, les médias n'ont pas appris, les analystes de plateau télé n'ont pas appris la leçon, à savoir que il faut faire gaffe, quoi. Il faut pas prendre les électeurs pour des cons. Il faut leur expliquer les choses. Il faut leur dire que rien n'est joué avant le mardi soir. Hein. J'avais mis effectivement la barrière à ce mardi soir, parce que c'est là que tout s'arrête et que on va savoir enfin combien exactement de circonscriptions vont voir un simple duel entre un candidat républicain, qu'il soit de gauche ou de droite, et un candidat du Rassemblement national. Donc voilà, c'est comme ça que ça se joue et pas autrement. Et donc c'est irresponsable, irrespectueux et complètement suicidaire, selon moi. Je pense notamment à Bruno Le Maire, mais on va en reparler dans quelques instants, de dire ni LFI ni Rassemblement national, sachant que c'est un prétexte, c'est un mensonge éhonté, ce sont des menteurs patentés. Puisque, y compris dans des circonscriptions où le candidat nouveau Front Populaire socialiste est arrivé en seconde position. Des candidats de la majorité présidentielle, enfin de la majorité, de la virtuelle majorité présidentielle ou de la droite, ont refusé de se retirer en disant Mélenchon et LFI, alors qu'en fait c'était un candidat socialiste. Donc tout ça ne tient pas la route et c'est vraiment une. Enfin, à chaque fois on pense qu'on n'ira pas plus bas, qu'on ne pourra pas creuser plus profond, et finalement on y arrive malheureusement.
Mais beaucoup de triangulaires impossibles dimanche dernier, 306 je crois, passé à 100, je crois 104 aujourd'hui selon les chiffres du Monde et de l'AFP. Et le mot qu'on a entendu le plus depuis dimanche, Mourad, c'est désistement. Désistement pour faire barrage à l'extrême droite. Mais certains dans le camp présidentiel persistent à dire qu'ils n'appellent à voter ni pour le Rassemblement national, et ni LFI. Donc, ce qui a fait bondir certaines personnalités politiques de gauche et du Nouveau Front Populaire. On va commencer par écouter Marine Tondelier, qui est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts.
Écoutez, moi, je vais réagir à ce que vient de dire Bruno Le Maire.
Je combat le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise.
Parce que je suis, un, atterré, et deux, extrêmement en colère.
On vous sent très ému.
Très ému, parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement National. Et ce que vient de faire Bruno Le Maire, c'est un comportement de lâche et de privilégié. De privilégié. C'est hors sol, c'est lunaire, et c'est pas à la hauteur de l'histoire. Est-ce que le Rassemblement National a la possibilité d'être en majorité absolue à l'Assemblée Nationale ? La réponse est oui. Oui. Est-ce que la France Insoumise a la capacité d'être à la majorité à la majorité absolue à l'Assemblée nationale, la réponse est non. Est-ce qu'ils ont la capacité d'avoir un Premier ministre ? La réponse est non. Donc ils se trompent de problème. Ils se trompent de problème. Et je vais vous dire, heureusement que les électeurs de gauche et écologistes sont moins sectaires et moins lâches que ça.
On va continuer avec Yann Brossat, qui est sénateur communiste et conseiller municipal à Paris.
C'est un député du Rassemblement national, M. Bocaliti, qui a tenu pendant des années une librairie qui vendait des ouvrages négationnistes. Par ailleurs, ce sont les communistes, avec Fabien Roussel à l'Assemblée nationale et moi au Sénat, qui ont déposé une proposition de loi visant à rendre inéligibles les personnes condamnées pour antisémitisme et racisme. Qui s'est opposé à cette loi ? Les macronistes et le Rassemblement national. Eh bien, je le dis, si nous sommes demain majoritaires, nous ferons adopter cette loi parce qu'il n'est pas acceptable que des personnes condamnées pour racisme, antisémitisme ou négationnisme siège à l'Assemblée nationale ou dans un conseil municipal.
C'est tout à votre honneur de dénoncer ceux qui enfreignent la loi, ceux qui peuvent passer, selon vous, pour des antisémites. Mais il n'y a aucun antisémite au NFP ? À LFI, plus précisément ? Il n'y en a pas ?
En tout cas, vous savez, grâce à nous, l'antisémitisme est un délit. Et donc,
c'est pas ma question. Hein.
Si, c'est une réponse. Et dès lors qu'on prononce des propos antisémites, on est condamné. À ma connaissance, et donc je réponds très directement à votre question, si vous me permettez de faire une réponse de plus de deux mots, à ma connaissance, il n'y a pas, du côté de la France insoumise, de personnes condamnées pour antisémitisme. Ce qui n'est pas le cas du Front National et du Rassemblement National. Je vous le redis, M. Bocaliti, député du Var, du Rassemblement National, a tenu une librairie négationniste. Il a été condamné pour fait de violence en réunion, violence avec armes. En l'occurrence, cette personne est réinvestie par le Rassemblement National. Et je constate que tout à l'heure, vous receviez M. Bardella et jamais vous ne lui demandez de compte. Enfin, c'était pas vous, c'était d'autres.
En l'occurrence.
Enfin, c'était la même chaîne. En l'occurrence, jamais aucune question ne leur est posée sur leur tripotée de candidats, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a 45 qui sont ciblés parce qu'ils ont prononcé des propos racistes, antisémites ou négationnistes. Je vois par exemple Mme Sophie Dumont, qui est candidate du Rassemblement National et qui explique que le parti de M. Zemmour est financé par les Juifs. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez qu'il est sain ?
Tout aussi anormal que de dériver Maillard Habib dans une créature tentaculaire assassinée par l'ex-candidate aux européennes. C'est la même chose.
Comment se fait-il que sur cette chaîne, jamais, absolument jamais, absolument jamais, les candidats du Rassemblement National ne sont interrogés sur cela ? Eh bien, je vous le dis, il y a une forme étrange d'injustice. Et pour ce qui concerne la France Insoumise, je le redis, aucun membre de la France Insoumise n'a été condamné pour
antisémitisme. Non, mais il y a un certain nombre de...
A few moments later.
On parlait de candidats du Rassemblement National qui rendent hommage au maréchal Pétain. Moi, peut-être, je n'en sais rien. Mais
moi, je sais.
Mais je pourrais.
D'ailleurs, vous pouvez vérifier si vous faites votre travail de journaliste.
Il s'agit de Madame
Françoise Billot, qui est candidate dans les Côtes d'Armor. Et non seulement elle rend hommage au maréchal Pétain, mais elle rend aussi hommage à un prêtre collaborationniste qui s'appelait Jean-Marie Perrault. Vous voyez, donc deux pour le prix d'un.
Voilà, Yann Brossa qui était sur CNews, hein, les, c'est deux séquences sur CNews et auparavant Marine Tondelier sur France Inter. Mourad ?
Oui, c'est alors moi je suis donc Yann Brossa, sénateur communiste, ancien adjoint au logement à la ville de Paris. Yann en fait fait une leçon littéralement une leçon de journalisme aux gens de CNews. Alors moi je suis circonspect toujours, hein, je l'ai toujours dit, j'ai toujours écrit sur le fait d'aller sur le plateau de CNews quand on est de gauche. Voilà, c'est mon point de vue. J'estime que c'est donner une caution. Très souvent, c'est des gens qui se font bâcher, qui se font gifler, qui se font humilier, notamment par Pascal Pro ou d'autres, par des Golnadel, des fachos, des fachos du Likoud. Là, franchement, je trouve que Yann Brossa, que je connais par ailleurs, a fait le job, vraiment le job. C'est-à-dire qu'il est venu leur mettre le nez dans leurs contradictions, pour être poli, en leur montrant que effectivement, preuve en est, hein, je peux témoigner qu'effectivement, quand Bardella ou des cadres d'extrême droite, des partis d'extrême droite viennent sur le plateau, ils sont accueillis d'abord avec le tapis rouge, et ensuite on leur pose absolument pas ce genre de questions, c'est-à-dire les questions qu'on pose sur la question récurrente et la seule question, puisqu'on n'aborde jamais les programmes, la question de antisémitisme. Donc c'est il a très bien fait de le faire, il l'a fait très bien. Oui. Je l'en remercie, je l'en félicite, et ça montre l'absence totale de professionnalisme. Quand on voit je vous invite à aller voir les images, hein, puisqu'on c'est aussi filmé. Oui, vraiment, oui. On dirait deux gamins qui se font engueuler par le CPE parce qu'ils ont été pris en flag en train de d'uriner dans la cour de récréation et qui n'arrivent pas à se justifier. Et là, quand à la fin, effectivement, le journaliste dit ah mais moi je peux pas vérifier, je sais pas au courant. Bah ouais, fais ton travail de journaliste et va vérifier, alors que Yann vient avec des dossiers très solides, le nombre exact, donc les 45, le nombre exact de candidats RN qui ont été inquiétés, voire condamnés dans des affaires d'antisémitisme, pour le coup, de racisme ou de négationnisme. Et donc c'est une leçon, je trouve, assez magistrale. Concernant Marine Tondelier, donc la responsable des Verts, qui habite accessoirement, c'est une autre Marine, voire la Marine de Hénin Beaumont, donc le fief de Marine Le Pen. Oui, sa colère légitime, son émotion, elle est à la hauteur de la saloperie. Je parle pas de la personne, hein, pardon, oui. De la saloperie qu'a pu sortir Bruno Le Maire, ce loser qui a planté littéralement l'économie française pendant des années, qui a joué les gros bras face au patronat et face à la Russie, alors qu'on sait le résultat. Hein. Je demande avec insistance au patronat de relever les salaires. Je demande à Total de baisser le prix de l'essence. La Russie, on va la mettre à genoux, on va mettre l'économie russe à genoux. C'est waouh quoi, c'est un loser magnifique qui écrit des bouquins porno absolument dégueulasses et minables, qui n'ont aucune valeur littéraire, même pas dans des romans de gare, ni dans des sex shops glauques auprès des gares, près d'une gare de province. Et ce mec-là vient dire, ni LFI, ni RN, en les mettant sur le même plan et en ne prenant pas ses responsabilités. Oui, Marine Tondelier a raison, c'est un lâche, un sale bourgeois planqué lâche qui a profité toute sa vie du système et qui n'a même pas, sur la fin, alors qu'il est en train de mourir politiquement, et que c'est, heureusement il va finir dans les poubelles de l'histoire politique française, il n'a même pas cette espèce de fierté, cette espèce d'honneur de dire oui, il faut faire barrage au Front National. Il n'a même pas cette once de courage, c'est un pauvre type, politiquement parlant, c'est un pauvre type qui n'a aucune envergure et qui n'a vraiment, pour moi, enfin, aucune considération à lui porter. Je m'aligne complètement sur ce qu'a dit Marine Tondelier.
On va inviter les auditeurs et auditrices à aller voir également sur les réseaux sociaux une très grosse colère de Yannick Jadot, qui est député européen Europe Écologie Les Verts, qu'on aurait dû passer là, mais bon, par manque de temps, parce qu'on va passer au niveau local, Mourad, Orléans, qui était jusqu'à présent détenue par la majorité présidentielle, et le RN termine premier dans 3 des 4 circonscriptions couvrant la métropole. Et au premier tour, la seule circonscription où la candidate sortante, Stéphanie Rist, est arrivée en tête. Et puis, alors, le désistement dont on parlait a marché à fond. Guylaine Kounowski, la candidate du Nouveau Front Populaire, s'est désistée. Mais tu as eu l'occasion de discuter, je crois, ou de contacter Madame Rist avant le premier tour, parce que tout le monde se disait, sur sa circonscription, il n'y avait pas de candidat de droite, de LR ou de c'est ça ?
Oui. Alors le bruit circulait dans des cercles vraiment très bien informés. Hein. C'est pas des bruits de comptoir ou des bruits de couloir, pardon, ou des discussions de comptoir. C'était vraiment très très précis, très recoupé, très documenté selon une information donc selon laquelle elle n'aurait pas Stéphanie Rist de candidat LR en face d'elle. Ce qui a été le cas, ce qui lui a permis d'accéder au second tour de manière un peu assez confortable et très bizarrement, alors elle m'a répondu. Hein, je dis très très tranquillement parce que c'est un journaliste qui interviewe, enfin qui pose la question à une députée sortante, donc il n'y a pas de secret. Elle m'a dit que ça n'était pas organisé. Sauf que très concrètement, Caroline Janvier, elle a été plantée. A eu la planche savonnée. On connaît le peu de sympathie ou d'amitié que peut avoir Stéphanie Rist pour Caroline Janvier. Et Caroline Janvier donc s'est retrouvée en troisième position et très courageusement donc la députée sortante.
La deuxième circonscription. Oui.
Deuxième circo, donc c'est elle qui avait battu Serge Grouard hein, pour rappel historique et qui avait été réélue. Elle s'est désistée très rapidement et donc elle a pris la mesure de l'importance de ne pas y aller pour y aller, sachant qu'elle aurait sans doute perdu, mais en plus de ça, de ne pas prendre le risque de faire élire quelqu'un du Rassemblement National qui est arrivé en tête, et donc laisser la place à Emmanuel Duplessis, donc qui représente le nouveau Front Populaire. Et donc, elle a eu ce courage-là, et vraiment, je la félicite. Mais sa planche a été savonnée, très étonnamment, alors que ça n'a pas été le cas dans la première circonscription avec Stéphanie Rist, qui n'a pas eu. Très bizarrement, très étonnamment, de candidats hostiles de la droite face à elle. Et donc, ça pose des questions et ça montre une stratégie qui me semble surprenante et qui aura des incidents évidemment sur le second tour. Alors, quels seront les reports, notamment sur la candidature. Donc, pareil, pardon, excusez-moi, Guylaine Kounowski sur la première circonscription s'est aussi désistée puisqu'elle estimait qu'elle n'avait pas la possibilité, alors qu'elle pouvait se maintenir, elle n'avait pas la possibilité d'avoir une réserve de voix qui lui permette de gagner, donc elle s'est désistée et je la salue aussi parce que c'est quelque chose de très dur, hein. C'est de mener campagne, déjà d'être battu, c'est pas facile, mais alors quand en plus on peut, il y a forcément un moment de dépression, ça je me moque pas, hein. Moi quand on est battu à une élection, j'en ai vécu suffisamment, j'ai côtoyé suffisamment d'acteurs politiques pour dire que c'est pas, je me réjouis d'une défaite. Simplement, là, en plus, elle pouvait se maintenir et donc c'est doublement pénible de dire que on peut se maintenir, mais on peut donc continuer la bataille, mais qu'on préfère se retirer pour être en phase avec ce qu'on défend et en l'occurrence l'accession du RN aux affaires. Et donc, on va voir comment vont se faire les reports. Sur la candidature d'Emmanuel Duplessis sur la deuxième circonscription et voir si finalement les électeurs, parce que in fine c'est les électeurs hein, qui décident, oui, c'est pas parfait. Il peut y avoir n'importe quel accord de parti, il peut y avoir n'importe quel désistement, à la fin ce sont les électeurs qui décident et donc on va voir si les électeurs jouent le jeu ou pas sur la deuxième circonscription et si alors que la gauche actuellement hein, j'entendais ça encore tout à l'heure je crois sur France Info nationalement c'est une majorité de candidats de la gauche qui ont pris leurs responsabilités et qui se sont désistés beaucoup plus que la majorité relative macroniste ou celle de la droite. Donc voilà, chapeau à eux. Et puis on va voir ce qui va se passer. En tout cas, moi je serais assez surpris, je le dis, je dis pas que ça n'arrivera pas. Je serais assez surpris que le Rassemblement national obtienne la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale dimanche soir.
Et on en parlera certainement la semaine prochaine. Un rappel des chiffres hein, sur la première circonscription. Stéphanie Rist est arrivée en tête avec juste 69 voix d'avance sur Guylaine Kounowski. Elle affronte pour le deuxième tour Tiffany Rabault, qui est candidate RN, qui a obtenu 28% des voix, pardon. Et dans la deuxième circonscription, la députée sortante, tu disais Caroline Janvier, est arrivée troisième. La candidate RN, Élodie Babin, qui n'a pas fait campagne, il faut le souligner, et qui ne veut pas faire campagne. On en parlera tout à l'heure dans l'émission avec Thomas qui essayait de la joindre. Elle est arrivée avec 28%. Et il y avait un LR, donc tu disais Cyril Collat, qui n'a obtenu que 5,2% des suffrages dans cette deuxième circonscription. Bah, écoute, on se retrouve, Mourad, la semaine prochaine certainement pour parler de ces résultats définitifs, de cette nouvelle chambre. Hein.
Oui, et puis si le RN n'obtient pas, je le rappelle, hein, mais si le RN n'obtient pas la majorité absolue, il va devoir y avoir des accords entre groupes.
Bien sûr.
Alors entre le RN et puis bah on ne sait pas. A priori LR. Est-ce que il y aura suffisamment de LR qui vont basculer en disant que bah ils vont à la gamelle et puis ils mettent un mouchoir sur leurs convictions et ils rejoignent le RN pour que Bardella puisse quitter son mandat européen pour rejoindre Matignon. Est-ce que ça va se faire ou pas, c'est toute la question en fait pour l'instant de savoir si le restant de républicanisme des républicains va suffire à faire barrage effectivement au Rassemblement national ou alors est-ce que les digues vont les digues les trois galets qui servent de digues entre les LR et le RN vont suffire ou pas à bloquer tout ça. Ça va être vraiment la question, à mon avis, la question centrale dimanche soir après 20h.
Absolument. Et d'ici là, est-ce que tu continues ce que tu as appelé tout à l'heure les spaces? C'est sur les réseaux sociaux. Hein. C'est un endroit où on peut discuter, parler de politique. Tranquillement, tu as beaucoup fait ça depuis quelques jours.
Oui, parce que j'étais invité à le faire par des gens, pas forcément des militants, mais des citoyens, des citoyennes en l'occurrence, qui voilà, et vraiment ça attirait beaucoup de monde parce que les gens sont dans l'inconnu, sont dans le flou, stressent, ne savent pas ce qui va se passer, ne comprennent pas toujours forcément les tenants et les aboutissants, enfin ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants de ce genre de scrutin. Donc c'est toujours bien, je trouve, d'avoir des échanges là-dessus, de pouvoir éclairer un peu et de pouvoir relativiser certains discours médiatiques qui sont complètement à l'ouest des fameux experts dont je parlais tout à l'heure et des éditocrates dont on parle régulièrement ici et je trouve ça extrêmement dangereux. Et là le vrai danger, ça a été le ni-ni, à savoir ni LFI ni RN qui évidemment ce discours-là, mais alors à 100% ni LFI ni RN à 100% profitera au Rassemblement National.
Merci à toi, Mourad. À poursuivre ces spaces, amis auditeurs et auditrices, Moumou Guichard, en attaché, hein, notamment sur X. Merci à toi. On te retrouve pour l'analyse complète de ces élections législatives la prochaine fois.
Avec grand plaisir. Petite précision, c'est Moumou underscore Guichard ouais. sur X notamment. C'est là qu'on a vraiment des échanges avec les internautes et c'est vraiment super parce que c'est pas mon avis, on s'en fout en fait éperdument. C'est vraiment quand j'essaye d'émettre des analyses ou des choses, c'est vraiment fait de manière c'est fait suite à des échanges justement avec les internautes et c'est nourri par les réflexions des internautes et c'est tout l'intérêt d'ailleurs des spaces auquel je vous invite quand vous en avez l'envie et le temps.
Merci à toi pour la qualité et la pertinence de ta présence dans cette émission. À très vite, Mourad.
Merci infiniment. À très vite.
Faut dire qu'à la mémoire, on a choisi l'oubli. Partout, les discours sont les mêmes. Et étranger, tu la cause de nos problèmes. Moi, je croyais que c'était fini. Mais non, c'était qu'un répit. Moi je croyais que c'était fini. Mais non, c'était qu'un répit. Voilà, ça commence. Partout sur la douce France. Voilà, ça commence. Regarde ailleurs.
regretté Rachida en 1993, deuxième album solo après la fin du groupe mythique Carte de Séjour. Il avait sorti cet album au nom de Rachida, tout simplement. Ça s'appelle, le titre c'est Rachida, l'album Voilà Voilà Que Ça Recommence. Je crois que c'est de complètement, hein, on peut en parler maintenant de ça. Voilà, voilà, ça recommence.
Bah c'est, c'est ma jeunesse, c'était en 93.
C'était en 93.
Absolument. Et oui, on entendait ce genre de choses à la radio.
Ben oui. Il faudrait ressortir ceci, vraiment, et le rediffuser beaucoup en ce moment. Oui. À bâton rompu, la suite.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Et nous accueillons Thomas Deray. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Thomas Deray de la rédaction, de la rédac pop de Radio Campus Orléans et de la rédaction tout simplement de Radio Campus Orléans. Tu es allé voir hier, il y avait une rencontre organisée par, c'est quoi, c'est le monde culturel Orléans.
Oui c'est ça, on peut dire ça comme ça, le monde culturel. Oula, alors je ne sais pas si mon micro a un petit souci, mais j'ai l'impression que ça grésille, mais c'est peut-être
non,
que moi.
Non,
ouais.
C'est ouais. Que toi.
Ouais, ok. En fait, oui, c'était une agora populaire, comme ils ont appelé ça. C'est le monde du spectacle, comme tu as dit, notamment la CGT spectacle, mais pas que, en tout cas, qui s'était réunie en assemblée générale il y a un peu plus d'une dizaine de jours pour décider de la tenue d'une agora populaire au lendemain du premier tour des élections législatives, quoi qu'il arrive. Donc le quidam moyen qui pouvait passer devant le théâtre hier autour de 18h, eh bien, pouvait voir une enceinte, un micro et à peu près une centaine de personnes qui étaient rassemblées sur le parvis. Micro ouvert, toutes les personnes qui le souhaitaient pouvaient prendre la parole sur la situation politique actuelle, sur ce qu'ils ressentaient, sur les perspectives à venir. Bref, c'était vraiment séance de thérapie de groupe et de discussion pour trouver éventuellement des solutions. Et pour le coup, les prises de parole étaient extrêmement diverses. On pouvait parfois avoir de l'émotion et de l'émotion vive.
Personnellement, je suis en train de perdre une grande partie de ma famille, qui vote RN, qui sont malgré eux des enfants d'immigrés. Et c'est pour vous dire que vous n'êtes pas seul et qu'on peut choisir sa famille. Et que ça fait très mal en tant qu'enfant d'immigré de voir toute sa famille voter RN alors qu'aucun d'eux n'est de France FDR. Donc voilà, mon courage et vous n'êtes pas seul.
Bonjour à tout le monde, mon nom est Lou Karaïchko et je suis bipartite et je suis devenu suspect. Ça m'a touché personnellement, bien que je sois venu ici, j'ai participé à un concours. Et j'ai gagné un concours, je suis venu ici, c'était du mérite. Et voilà, ce que je viens d'entendre, de voir en fait hier, ça m'a bouleversé énormément. Parce que je suis devenu suspect, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'aime moins la France, parce que j'ai deux patries. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. C'est juste d'exprimer mon émotion. Et voilà, de vous dire, je n'étais même pas préparé, je vous ai vu. Voilà, de partager mon émotion avec vous. Voilà, merci.
De, oui, l'émotion, de l'émotion, mais aussi de la colère.
Ouais, beaucoup d'émotions, effectivement, de la colère, comme tu le dis, ça on va l'entendre tout à l'heure. Des applaudissements aussi par rapport à ces prises de parole. Comme vous l'avez entendu, hein, certains se sont laissés aller aux larmes, en fait, par rapport à des situations personnelles qui pouvaient être effectivement très touchantes. Cet artiste binational, donc, qui a découvert qu'il était devenu suspect en entendant certaines personnes du Rassemblement National dire que les binationaux ne pouvaient pas occuper certains postes clés.
Mais correction, ils ont dit dans le nucléaire.
Oui, dans le nucléaire, oui, bien sûr. Oui. Bon, bref, on peut comprendre ces émotions qui les tiraillent. Donc là, on a parlé de tristesse, mais effectivement, comme tu l'as dit, il y a aussi beaucoup de colère. Certains ont lâché cette colère contre le programme du RN, mais aussi contre la politique de la majorité présidentielle, coupable d'avoir conduit à leurs yeux à cette situation.
Si il supprime l'intermédiaire, qui est quand même dans le programme de Bardella, ça va rendre la France beaucoup moins diverse. Il y a beaucoup d'artistes étrangers qui arrivent à bénéficier du statut de l'intermédiaire. Et moi, je sais qu'à Londres, il y en avait beaucoup moins. En fait, ils ne passaient pas leur temps à faire leur métier d'artiste et ils galéraient pour trouver un autre boulot. Donc, Si vous voulez avoir moins de diversité culturelle en France, votez RN.
J'ai une pensée aussi de manière générale pour toutes les personnes racisées, pour tous les LGBTI, pour toutes les femmes qui voient chacun à chaque fois reculer leurs droits quand l'extrême droite est là. Et il faudra rien laisser passer, il faudra être dans la solidarité concrète, il faudra être intransigeant chaque jour contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'islamophobie, il faudra être intransigeant chaque jour contre l'homophobie, contre la transphobie, contre le sexisme, contre les violences sexistes et sexuelles. Il faudra abandonner personne face aux fachos. Et on n'oublie pas qu'une des premières lois qui va arriver à l'Assemblée nationale dans la navette parlementaire, c'est la loi transphobe qui a été adoptée au Sénat il y a quelques semaines, un peu avant la dissolution, qui vise à interdire la transition des mineurs, qui vise à imposer des thérapies de conversion à la place. Et on le voit aussi dans d'autres pays, comme aux USA, comme en Russie, comme en Angleterre. C'est toujours le premier pas pour attaquer toutes les personnes trans derrière, et au-delà toutes les personnes LGBTI, et au-delà tout le droit à l'avortement. Donc il faudra se mobiliser.
Alors moi je vais rebondir sur les émigrés et sur les sans-papiers notamment, parce que là c'est panique à bord. Il va falloir faire de la désobéissance, hein, tous autant qu'on est quand même, parce qu'il va falloir planquer les gens, hein, ça c'est clair, c'est obligatoire. De toute façon, que ce soit le RN ou que ce soit le gouvernement Macron, ils ont tout fait eux aussi pour que les étrangers soient mal vus. On n'arrête pas de dire qu'ils coûtent de l'argent, ils sont beaucoup moins chers que tous leurs copains qui gagnent un pognon de dingue d'ailleurs. Voilà. Ils travaillent, même quand ils sont sans papier, ils travaillent des fois sous des fausses identités, mais ils rapportent de l'argent à l'État puisqu'ils cotisent. Donc là, il faut absolument, absolument les soutenir. Franchement, il va falloir que tout le monde se mette à les aider. Et en parlant de culture, on a aussi cette chance d'avoir des gens qui viennent d'autres pays, qui nous apportent d'autres choses, d'autres musiques, d'autres danses, d'autres théâtres. Et c'est important, important de les mettre avec nous et de les amener avec nous et de les protéger.
Et
voilà.
Ça, il faut le dire et de redire et de redire, quoi.
Oui, tout à fait.
Mais il y a de l'optimisme.
Mais il y a de l'optimisme aussi, comme cette personne qui cite notamment le penseur italien Antonio Gramsci.
Il y a pas mal de gens qui ont peur, et je pense qu'il ne faut pas céder à ça. Voilà, qu'il va falloir s'organiser et se battre. Et voilà, qu'on a quand même, même si on sait qu'ils vont attaquer très fort, on a quand même une constitution. Être Premier ministre en cohabitation, ça donne pas tous les pleins pouvoirs, même si ça donne le droit de redécouper les circonscriptions, le pouvoir sur l'ARCOM, etc. Voilà, il y a tout un tas de choses, mais il y a aussi quand même des leviers pour se battre. Concrètement, moi je pense qu'on a un an, peut-être plus, j'en sais rien, ça se trouve dans un an on va avoir une nouvelle dissolution. On a un certain temps, ça va être très agité, ça va tanguer, mais c'est justement le moment où il faut se mobiliser et ne pas céder à la peur, parce que effectivement, plus on va reculer, plus ce sera compliqué après. Voilà, donc il y a des choses à faire. En étant organisé, on est plus fort. Il y a des questions qu'il va peut-être falloir se poser. En 1941, il y avait des grèves, hein. Le 1er mai, il y a eu des grèves en 1941, en 1942. Là où il n'y avait pas de grève, il y avait des gens qui faisaient du sabotage dans les entreprises. Donc on n'en est pas là. Moi, je ne pense pas qu'on ait une situation proche de 1941 ou 1942. En tout cas, la peur n'est pas toujours bonne conseillère. Il y avait un penseur marxiste, Gramsci, qui disait « pessimisme de la raison, optimisme de la volonté ». On est conscient des risques qui pèsent. Maintenant, il faut garder de l'optimisme et de la volonté pour trouver le courage de se battre et ne pas céder à la peur qui est mauvaise conseillère. Voilà, c'est compliqué.
C'est compliqué, mais c'était organisé hein, par des syndicats.
Ouais, tout à fait.
Tu as pu rencontrer également donc une représentante syndicale.
Exactement. Ne surtout pas céder à la peur. C'est ce que Nadejda Tiou, qui est intermittente du spectacle, réalisatrice, productrice et autrice, disait. C'est l'une des co-organisatrices. Elle est membre de la CGT Spectacle et donc elle nous parle de cette agora populaire et de ce qu'elle en a pensé.
J'ai été touchée par c'est souvent comme ça dans les agoras, le fait de donner la parole à tout le monde de façon égalitaire, sans que ce soit forcément des personnes qui sont déjà en responsabilité. Ça permet d'entendre des choses que les gens vivent de façon tragique. Ce qui saute aux yeux, c'est les étrangers et les enfants d'immigrés. Et j'en avais entendu parler déjà par des amis, des familles entières de gens issus de l'immigration qui se tournent vers le RN. C'est pas si étonnant que ça, quand on réfléchit bien, mais c'est troublant et surtout, ça démontre à quel point c'est comme une bombe à fragmentation. C'est-à-dire que le poison, le venin que distille le discours de haine de l'idéologie d'extrême droite, et qui est véhiculé vraiment de façon massive, on est matraqué par ça, c'est comme un truc qui se diffracte et puis qui sépare les gens. Et ça fait penser un peu à ce qui s'est passé avec l'élection de Trump aussi aux États-Unis, où il y avait des gens qui se déchiraient dans les couples, dans les familles et tout ça, parce que c'est comme, en fait, c'est vraiment une machine à séparer et que nous, on essaie de rassembler. Même si aujourd'hui, on n'est pas 500, mais on est quand même assez nombreux et divers. Et ça, c'est super important. Et que ça sera des liens pour demain, pour rassembler davantage, et en fait on va résister comme ça, en se retissant des liens que notre façon de vivre aussi a beaucoup rompu.
Je suis quand même malgré tout assez surpris sur ce genre de rassemblement, de voir assez peu de personnes entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, racialisées. Comment est-ce que vous l'expliquez?
Alors, je l'explique par le fait qu'on s'est coupé complètement des couches populaires de la population, en particulier dans les villes comme Orléans. Moi, je suis allée au meeting politique organisé à Saint-Jean-de-la-Ruelle avant le premier tour. Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'est une des villes les plus populaires d'Orléans, où il y a une population extrêmement métissée. Et dans la salle, s'il y avait deux personnes racisées, c'était grand le maximum. Il y a vraiment un problème de coupure à la fois, et c'est un peu moins vrai dans le monde syndical forcément, mais dans le monde politique c'est très vrai, de coupure en termes de classe sociale, de savoir c'est qui les ouvriers.
Oui, c'est vrai, je suis pas sûr qu'on ait vu beaucoup d'ouvriers ici.
Voilà, il y a aussi la question de la classe qui croise en fait, parce que souvent on retrouve les mêmes personnes dans les couches qui sont un peu écrasées par les élites, quoi.
Alors, j'imagine qu'on y réfléchit un petit peu, c'est quoi les pistes de solutions pour tenter justement de raccrocher un peu ces différents mondes qui ont en fin de compte les mêmes intérêts et qui ont le même adversaire là pour le coup.
Le monde culturel a un problème avec ça, parce qu'il y a quand même beaucoup moins d'artistes de façon générale. On va dire que les formes d'expression populaire, comme le rap par exemple, d'ailleurs les plus appréciées aussi de l'ensemble de la population, moi je crois que le rap c'est la première musique en France à apprécier et tout ça, en fait se sont un peu coupés du monde institutionnel de la culture, même si il y a quand même une coupure entre la culture populaire et la culture institutionnelle. Je crois que les festivals de rap, ils ont été complètement vus comme illégitimes pendant des années. Bon, je connais pas très bien le sujet, mais ce qui est sûr, c'est que ça se voit quelque part. Après, je suis pas d'accord non plus avec le discours d'Ariane Mouchkine qui dit l'art est devenu bourgeois et on est une élite et on a qu'à fermer notre gueule. En fait, elle parle pour elle, hein, parce qu'on n'est pas tous des bourgeois. C'est pas parce qu'on est peut-être en majorité vus comme des gens un petit peu les intermittents, comme les chômeurs de luxe là, mais en fait, la grande majorité des intermittents, c'est des gens qui gagnent très peu d'argent, qui ont une précarité incroyable de vie, qui n'ont pas accès à des droits fondamentaux pour l'ensemble des salariés, comme le droit à la santé, le droit d'être malade. Il y a des droits à la retraite aussi qui sont catastrophiques, etc. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans le discours l'art est bourgeois et les cultureux, parce que ça, c'est le discours d'extrême droite, finalement. Et il ne faut pas non plus nier qu'on a certainement des choses à retravailler pour travailler sur ces frontières qui se sont créées.
Voilà pour ce reportage. Merci Thomas.
Ouais. Pour cet excellent prochaine reportage. Agora au même heure et même jour. Hein. Lundi prochain à 18h, il y a une deuxième agora qui se fera après le deuxième tour.
On saura les résultats définitifs de cette élection, de ces élections législatives.
À bâton rompu avec Hassan Kerry.
Oui, c'est moi. Mais sans coupure, s'il te plaît.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Mais ouais, c'est mieux.
C'est mieux. Oui.
On va parler maintenant de cet événement samedi dernier où on était, Steven et Monsieur
Monsieur Big Dad.
Non, mais c'est quoi ton micro? Micro d'or?
Ah, Goldie Mike.
Goldie Mike. Qu'est-ce que c'est que ça encore?
Ça vient de sortir.
Voilà. Ah ouais.
De ce quartier, voilà, vous le savez, hein, vous connaissez l'histoire. Dans les années 1960, une ville champignon est créée à Orléans, à 10 km du centre d'Orléans. c'est la source cité nouvelle. Le souhait du maire de l'époque, Roger Secrétin, c'était de bâtir de nouveaux logements, attirer des centres de recherche parisiens, créer une université sous la forme d'un Oxford à la française. La réalisation avait été confiée à l'architecte urbaniste Louis Arech. Et au fil des ans, ce quartier a accueilli des habitants venus du monde entier. Je crois qu'on a parlé de quoi ? 82 nationalités différentes,
hein ? Oui, c'est ça. C'est
je l'ai pas en tête, celui-là, mais oui.
Pendant les débats et cette émission enregistrée, que tu as eu l'occasion, donc c'est toi, Daniel, qui...
Oui, donc j'ai fait l'enregistrement, j'ai animé la table ronde, alors je l'ai préparé pour raconter la petite histoire. C'est un collectif de 4 femmes qui ont décidé d'organiser cette journée en mémoire de la source, hein, journée de la source, afin de recueillir des souvenirs, alors avec des traces physiques, hein, grâce au travail de Aziz Zniba, voilà, ah. Aziz Zniba, mmh. qui a fait donc un travail de collecte où on revoit, donc avant même la construction de la source, hein, on voit l'architecte qui présente le projet au conseil municipal, et puis après donc la construction, les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, et 2020. Il y avait aussi Malik qui a présenté 2 films avec le couple Robert et Véronique Clément en haut de la T17, hein, oui. Qui sont disponibles
sur la Rédac Pop.
Vimeo. Ils sont aussi sur la Rédac Pop à l'occasion de l'émission qu'on avait faite en janvier dernier suite à la destruction de la T17. Et puis cette émission de radio, alors qu'on a voulu populaire, c'est-à-dire on a voulu laisser le public pouvoir s'exprimer librement. Ça a bien fonctionné.
Oui,
c'est quelque chose qui fonctionne bien, d'ailleurs un petit peu comme...
Vous avez fait votre Agora populaire.
C'est quelque chose qui fonctionne bien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent peu représentées dans les médias. Et le plus simple, c'est peut-être de faire le média
à l'ancienne, un micro.
La place publique, avec un petit amplificateur si besoin pour faciliter le travail d'écoute. Et donc, on a tourné autour. Oui, donc ce sont ces 4 femmes. Je vais les nommer quand même. Il y avait Nadia M. Fakri, il y avait Nadia, Khadija et Fatira.
Fatira, absolument.
Ce sont elles 4 hein, qui ont voulu organiser cette journée en mémoire de la source. Et c'était pas mal, c'était sympa. C'était vraiment sympa de se remémorer ce bon vieux temps, que ces personnes se remémorent le bon vieux temps.
Oui, même de penser notre rapport au quartier, notre rapport à la ville et tout. C'était plutôt intéressant.
Oui, avec la dimension sociale notamment. Tu vois, comment ça se fait qu'à l'époque, il y avait des grandes fêtes, comment ça se fait qu'elle n'ait plus lieu aujourd'hui. Le repli sur soi, alors qu'il faut mettre en lien avec l'architecture, mais je vais pas divulguer. Gâcher le papier de Steven, mais dimension de la place des corps dans l'espace et la place des corps dans cet espace à la fois architectural et pourquoi pas social. Et c'est là où on voit qu'il peut y avoir justement des problèmes avec des personnes qui pensent depuis Paris à comment on va loger les gens à Orléans.
Nadia Mfrika, tu disais.
Mfakri,
fait partie de ce collectif. Bon, c'est pas très grave en fait.
Nadia Larousse.
Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le quartier.
Fait partie de ce groupe de femmes dont tu parlais qui est en marge donc, de l'émission. J'ai promené le micro d'Abattoir Rompu pour avoir quelques réactions et dont je lui ai demandé de se présenter et de dire pourquoi elle avait voulu organiser quelque chose autour de la source qui était appelée la journée de la source. Écoutez-la.
C'est que tu vois, tu me diras.
Oui, mais c'est pas du tout. Attends.
Le nom, alors, NAD, c'est une association qui a été créée, j'ai créé il y a 3 ans, pour valoriser un peu le patrimoine matériel et immatériel de la ville de Sefrou, qui se trouve à 30 km de Fès. Et alors, est-ce que vous savez pourquoi ? Sefrou est le symbole du savoir-vivre. C'est la ville où sont nés mes parents. Mes parents ont vécu avec des chrétiens et des juifs et musulmans. Et donc, ils se côtoyaient tous les jours sans problème.
Vous êtes une des organisatrices de cette journée, exactement. Cette belle journée consacrée à la source. Voilà. Et vous disiez également dans l'émission de radio qu'on écoutera sur Radio Campus que vous avez dit à une de vos copines... On va retourner à la source.
C'est ça. Je lui ai dit, je te promets une journée de la source. Et voilà, c'est fait. Parce que j'en avais marre de revoir les gens que dans le marché. Voilà, le marché du dimanche qui est très connu. C'est très bien. On n'était pas forcément... moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Quand je viens le week-end, j'aime bien profiter de mes parents. Mais le dimanche, j'y tenais parce que je revoyais les autres. Et je leur ai promis que j'allais faire quelque chose pour la source.
Votre histoire avec la source, elle vient aussi de votre père. Vous avez raconté cette belle histoire.
Voilà, mon papa qui s'est retrouvé accidentellement, on va dire, par le hasard des choses. Il était à Bordeaux, donc mon papa est un invalide de guerre, hein. Il était un ancien militaire. Et donc entre Bordeaux et Paris, il s'est trouvé mal et ils l'ont transféré à l'hôpital d'Orléans et il n'a plus quitté Orléans.
Il s'est installé ici.
Voilà.
Alors, qu'est-ce qui vous reste de la source, de votre enfance à la source ?
Alors, beaucoup de choses. Je dis toujours à mes enfants, c'était le bon vieux temps et c'est vraiment vrai. Voilà, la jeunesse qui était innocente, un partage énorme et on se posait pas la question de la couleur de peau ou de ce qu'on avait comme Dieu et on vivait ensemble. Et ça, ça manque énormément aujourd'hui.
Quand vous revenez à la source maintenant qui change beaucoup, oui. Il y a des immeubles, notamment la tour, la T17 qui tombe. Quand vous revenez, vous êtes perdu ou pas ?
Alors moi, non, oui. Parce que j'ai encore mes parents. Je vais dire, c'est la racine quand même, la source. Peut-être que intérieurement, je camoufle un peu tout ça. Peut-être que pour moi, la source, c'est ce que je connais. C'est ma famille, c'est voilà, pas forcément un immeuble. Moi, je suis pas très matérialiste, donc j'aime les gens tels qu'ils sont et la source, ça sera toujours dans mon cœur, qu'elle soit avec des bâtiments ou pas.
Et tu parles également d'Aziz Znibab, Dans les années 2000, il a créé une association qui s'appelle Action pour faire des courts-métrages. C'est du tonnerre, c'est encore, je crois, visible sur YouTube. Aziz a fait cette collecte de photos à partir de la création de cette association. Et j'ai promené mon micro derrière, comme ça, il présentait ses photos aux visiteurs, aux visiteuses.
Et donc là on est dans les années 80. Là on va commencer, si vous voyez le terrain Gérard Philippe, là on va commencer à construire parce qu'il y avait la dalle qui n'était pas remplie. Donc là en 1980, c'est de nouvelles habitations qui vont pouvoir remplir cette dalle qui était un peu vide, qui retombait automatiquement ici. Vous voyez bien au terrain Gérard Philippe.
Oui, oui. Oui, oui.
Ensuite, donc la ça piscine, c'est en face du marché.
On voit la piscine là, ça c'est Gérard Philippe, et là c'est le lycée Voltaire Gauguin.
Évidemment. Donc là, et puis là en bas. Et là, on a le campus universitaire, le lac.
Le lac.
Donc le grand lac artificiel. Et là, c'est le...
Fac de droit, là. Droit sciences éco doit être ici.
Là...
C'est pas le resto universitaire.
Le resto.
Le resto universitaire.
Ouais. Resto universitaire.
Ouais, t'inquiète, j'ai l'œil, moi. T'inquiète, c'est moi, j'ai l'œil. Du coup, j'ai demandé à Aziz Niba comment il avait récupéré ses photos.
En fait, c'est quand j'ai commencé avec Action, au niveau de l'audiovisuel, qu'on a commencé des courts-métrages. Et c'est là que l'idée de la mémoire, mais je ne suis pas le premier à avoir pensé à la mémoire de ce quartier-là. D'ailleurs, j'ai un livre qui s'appelle « L'histoire et mémoire du quartier ». Et la vérité, c'est qu'en 1995, les Foot-Bassans et l'association des habitants de la source sont les premiers à avoir travaillé sur la mémoire du quartier. Nous, on était très jeunes, la vingtaine, et on est venus après. Et l'idée de recueillir toutes ces archives-là, c'était de sauver cette mémoire du quartier, cette histoire, et de ne pas créer l'histoire de ce quartier-là, mais du moins la transmettre.
Ouais, j'ai pris beaucoup de son, hein, donc qu'on me remettra, parce qu'on n'a pas le temps d'ici la fin de l'émission de passer tous les sons que j'ai pu faire. On écoutera notamment des jeunes gens, des jeunes filles. On écoutera également Samir Labette, qui est le président de l'association Escale, qui était revenu également. Escale faisait son AG le matin même. Mais pour l'instant, on va parler de l'émission, de ce qui s'est passé dans l'émission, avec cette partie où Malik Nejmi, à qui on doit ce beau projet, a parlé de la résidentialisation. Écoutez.
Je pense qu'on... C'est une réponse. Hein. Je pense qu'on ne soupçonne pas assez l'impact que peut avoir l'architecture sur les corps. Et la modification en fait urbaine qui fait qu'on voit bien que maintenant c'est tout grillage, etc. Je ne soupçonne pas assez la façon dont, pour l'avoir vécu quand je suis revenu, inconsciemment, la violence en fait du modification de l'architecture du quartier, de ceux qui sont restés là, et finalement, ah tiens, il y a un grillage, je passe plus de la même manière,
oui.
Ça et tout. Et
la
ça,
résidentialisation.
C'est complètement indicieux. Quand j'ai vu la passerelle coupée, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression d'être à la frontière marocaine, dans l'enclave. Non, mais je me suis dit, en fait, on a pris l'esthétique de la frontière, on l'a appliqué sur le quartier. Et ça, ça m'a choqué. Après, effectivement, je pense que si on demande aujourd'hui aux mamans du quartier et tout, elles vont dire, mais oui, mais nos gamins, ils ont les téléphones. On a coupé le rapport au dehors. Effectivement, ce qu'on appelle jardin, hein, quand la Haja venait du Maroc nous voir ici, visiter, et se mettait dehors et tout, on mangeait dehors, on se posait, etc. Et tout. Ouais. Il y a une politique, et là, je ne peux pas trop le dire parce que c'est trop personnel, mais je pense qu'il y a quelque part, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'application d'une politique qui ressemblerait un petit peu à la politique coloniale, qui font qu'en fait on pousse les gens un petit peu à se retrancher finalement les uns contre les autres et les uns
hein. Alors,
et ça pour le coup c'est bien sûr c'est ce que tu disais, de toute façon c'est une manière d'isoler les gens et les empêcher d'avancer.
Bah, je pense que c'est...
Et là c'est, l'impact il est psychologique aussi.
Ouais, t'inquiète Malik, moi je vais le dire à ta place. Avec les années, on a vu apparaître des grillages, des portes, des barrières. Les villes sont petit à petit transformées en prisons à ciel ouvert, limitant toujours plus l'accès au lieu de rencontre, créant des frontières entre nous et aussi en nous. Hein? Malik, il parle de l'esthétisme de la frontière. Mais qu'est-ce qu'une frontière? Bon, dans sa plus simple définition, c'est un espace qui limite et qui sépare. La frontière peut prendre plusieurs formes. Généralement, nous, on pense aux frontières naturelles, hein, typiques les déserts ou les fleuves. Mais les frontières ne sont pas une donnée naturelle, elles sont une construction humaine. Selon les cas, ces frontières unissent ou séparent. Comprenez bien qu'une frontière neutre et non violente, ça n'existe pas. Les frontières instaurent une segmentation et une hiérarchie. Elles sont le fondement du système capitaliste et colonial. Mais les frontières peuvent aussi être symboliques et divisées au sein d'une même nation. Malik ne s'y trompe pas lorsqu'il fait un comparatif avec le colonialisme, car les frontières sont liées au rejet de l'autre et au racisme. La question statutaire de nationalité étrangère ne permet pas de justifier ces violences. Il n'est donc pas ici question de xénophobie, mais bien de racisme. La frontière est un enjeu politique en elle-même. On peut considérer que le rejet de l'autre se limite à un enjeu de préjugés, et de rapports interpersonnels, mais c'est une vision très limitée de la réalité. Le rejet et le racisme se pensent en termes de conditions matérielles, c'est-à-dire indépendamment des questions d'intention, de mentalité et de préjugés. La frontière est un partage inégal des ressources et des statuts. Elle produit une division hiérarchisée, elle joue un rôle comme productrice d'altérité. Avec la frontière, en fait, l'Europe, elle renforce ce qu'elle sait faire de mieux, l'art de tuer à distance. Si on a pu entendre les anciens de la source parler de portes ouvertes ou de portes à défoncer, c'est précisément parce que instinctivement, ils ont compris qu'il se joue avec la multiplication des barrières et des grilles. Il se joue quelque chose avec la multiplication des barrières et des grillages. Ces frontières, marquées par le grillage, criminalisent ceux qui s'y trouvent ou ceux qui ne s'y trouvent pas. La frontière peut servir de protection, mais là encore, elle crée une hiérarchie entre ceux qu'il faut protéger et les potentiels assaillants. Pour vouloir se protéger, on peut être obligé de vouloir s'armer. Cette course à l'armement peut alors nous faire perdre de vue le but initial. Cette démarcation avec l'autre, c'est encore Truman qui l'exprimait bien lorsqu'il parlait des victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. Il disait « Quand vous avez affaire à un animal, il faut le traiter comme un animal ». Tout est dit. Cette considération de l'autre révèle un seul but, l'extermination. Et l'extermination de l'autre nécessite de l'isoler, de le parquer dans des camps ou des quartiers. En même temps qu'on nous entasse, on crée des frontières intérieures au sein de notre corps. On nous apprend qu'être accompli, c'est être cultivé, intelligent, raffiné et affable. Que certains comportements sont acceptables et que d'autres pas. Qu'être musulman, noir, arabe ou étranger, c'est-à-dire nègre, nous oblige à éviter de nous trouver du mauvais côté de la barrière. Pour cela, il faut se tenir, être raisonnable, présentable, agréable. Nous devons et nous restons des notes de bas de page, aussi historiquement que géographiquement. Alors comment on sort de tout ça, Hassan, hein? Bah, ils nous ont donné la réponse en fait à cette journée. Péter les barrières, péter les portes, écraser les grillages. Hein, retrouvons-nous, cultivons notre rapport au dehors, que les jeunes traînent et se retrouvent, partagent des galères comme des bons plans. La société libérale, qui est aussi la société de l'extrême droite et des fachos, c'est celle d'un peuple affable et calme, un peuple individualiste et peu informé. Lorsqu'on leur dit aux jeunes de casser les portes pour se retrouver, en fait, en réalité, il y a un désir profond de paix là-dedans. Il y a ici ce que Sartre et Fanon ont décrit comme une véritable violence révolutionnaire. C'est précisément de cette violence dont on va avoir besoin, surtout en ce moment, hein, contre les idées racistes et fascistes. Merci de m'avoir écouté.
Le, la, le, le parti pris de Monsieur Steven, et je vous rappelle, hein, cette émission est à retrouver sur la page
c'est
de
lecture.
La
Redacop.
Oui. Alors il y a la version intégrale, hein, oui, sans montage, et puis donc la version qui sera diffusée ce samedi, qui a été un petit peu amputée, normal, parce qu'on a passé quand même 2h30.
Deux heures et demie dessus, ouais. Ouais, évidemment. Ah, non mais franchement, allez écouter ça. Et moi, je vous répète que sur le site de Radio Campus Orléans, vous allez retrouver tous les sons que j'ai pu faire, que je n'ai pas pu vous faire partager ce soir, autour de cette émission et d'autres personnes. Il y a notamment Yves Baudard, qui a été longtemps éducateur de rue à la source. Un petit dernier mot avant de laisser la place à Raidon ici sur Orléans, Radio Campus Orléans. Au revoir, Radio Campus Tours, c'est maintenant que vous coupez. Oui. Le reggae, c'est juste derrière nous.